don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家
都忙了。Todos
juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, l'émission que vous retrouvez tous les jours du lundi au vendredi sur France Culture, votre magazine international. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Xavier Martinet, mais aussi Clément Salazar, Tiphaine de Rocchini, réalisée ce matin par Charles Le Gargasson et mise en onde par Élise Le. Quatrième et dernier volet consacré à la justice internationale, on va s'interroger sur une dimension méconnue de la justice internationale, celle qui vise à régler les différends économiques. Il existe une forme peu connue, mais vers laquelle eh bien, se tournent de plus en plus les États et les entreprises qui veulent régler leurs litiges et qui, ces dernières années, a donc le vent en poupe, c'est l'arbitrage.
Supposez que la République uruguayenne vous consulte et vous dise « Qu'est-ce que je fais ? Philippe Maurice me demande plusieurs millions parce que nous avons limité la vente de tabac. Que dois-je faire ? Nous sommes seuls. Aucun autre pays n'a fait ce que nous avons fait. Comment gérer ce litige ?»
On a d'abord une décision de la FIFA qui est de suspendre provisoirement M. Platini pendant 90 jours. Ensuite, il y a eu un recours auprès de la commission de recours de la FIFA. Et finalement, donc, il y a cet appel au tribunal arbitral du sport accompagné de cette demande d'effet suspensif, le but étant pour M. Platini d'obtenir la levée de cette suspension provisoire.
Le tribunal arbitral, dans sa décision finale, a confirmé que de son point de vue, le premier objectif de l'État russe n'était pas de collecter l'impôt, mais de pousser Yukos à la faillite et de l'exproprier de ses actifs au bénéfice de l'État via Rosneft.
Le cigarettier Philippe Maurice, qui avait déposé une plainte contre l'Uruguay, considérant que sa législation portait atteinte à un traité de protection des investissements, le tribunal arbitral du sport, qui va devoir trancher sur la suspension par la FIFA de Michel Platini de ses fonctions à la tête du football européen, ou encore la Fédération de Russie, opposée aux anciens actionnaires de la défunte compagnie pétrolière Yukos. Trois cas de litige réglés par une procédure arbitrale. Il existe une multitude d'instances nationales, internationales, de tribunaux, qui se forment selon les domaines, les situations, litiges commerciaux, des différends relatifs aux investissements entre États, entre un État et une entreprise. Parmi les plus connus, le CIRDI, le Centre international des règlements des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, créé en mars 65, qui permet de soustraire certains litiges ou une partie d'entre eux aux juridictions internes nationales. Si les débuts du CIRDI furent relativement calmes, l'institution a connu un regain d'activité, voire carrément un régime de surchauffe par l'explosion des litiges d'investissement et les possibilités offerte par l'insertion d'une clause CIRDI justement dans les accords d'investissement ou de libre-échange. Quoi qu'il en soit, ces dernières années, le recours à l'arbitrage s'est considérablement développé. Réputé plus rapide, plus technique, plus souple, mais aussi plus discret, il permet de régler de plus en plus de litiges. Alors comment comprendre le succès de l'arbitrage? Pourrait-il devenir demain le principal dispositif pour régler les litiges internationaux? Comment s'y retrouver dans ce paysage extrêmement complexe, pour pas dire carrément opaque? Et est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette forme de privatisation de la justice? En tout cas, les inquiétudes sont réelles concernant les négociations autour du fameux TTIP, le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, dans lequel il est question de mettre en place de nouvelles dispositions en matière d'arbitrage. D'ailleurs, le gouvernement a fait savoir que les discussions étaient au ralenti. Peut-être n'est-ce pas complètement étranger à cette question. En effet, on se souvient que le Parlement européen avait rejeté la première version de ce qu'on appelle le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États. L'Europe avait proposé une alternative aux tribunaux d'arbitrage avec la création d'une cour permanente indépendante et souveraine qui aurait la mission de régler de façon transparente et éthique les litiges. Est-ce qu'elle a une chance de voir le jour? À quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler? On verra ça tout à l'heure avec Édouard Boursieux. Mais d'abord avec nous en plateau pour nous accompagner, Thomas Clay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Versailles-Saint-Quentin, vous êtes un spécialiste de l'arbitrage, vous êtes auteur de cet ouvrage « Les modes alternatifs de règlement des conflits » qui vient de paraître chez Dalloz avec un autre auteur qui est Loïc Cadieux, Cadier. Et puis j'indique peut-être pour les auditeurs, pour situer un petit peu les choses, que vous êtes également le conseiller juridique de Michel Platini, on parlera peut-être de ce cas-là tout à l'heure. Et puis aussi peut-être indiquer que vous avez été l'un des premiers à dénoncer à l'époque l'arbitrage qui avait permis à Bernard Tapie d'empocher plus de 400 millions d'euros dans son litige avec le Crédit Lyonnais, un arbitrage qui finalement, rappelons-le, avait été annulé par la Cour d'appel de Paris. Voilà pour la présentation. À vos côtés, Sébastien Jean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, économiste, un spécialiste du commerce international et vous êtes directeur du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. On va commencer avec vous. Avec la montée en puissance, évidemment, des échanges, avec la signature de nouveaux traités, des traités bilatéraux, commerciaux, on se retrouve avec de plus en plus de différends entre d'un côté un investisseur privé et de l'autre côté un État. En fait, les procédures arbitrales pour les différents investisseurs États, même s'il y en a d'autres, mais ils sont d'une certaine manière le produit de la mondialisation et de la libéralisation du monde. C'est ce double mouvement qui a engendré cette explosion de l'arbitrage. D'une certaine manière, l'arbitrage, c'est un enfant de la mondialisation, avec toutes ses qualités et tous ses défauts.
C'est vrai, même s'il faut rappeler que ces procédures de règlement des différends, et en particulier au travers de traités bilatéraux d'investissement, sont anciennes. Et le premier traité en question avait été signé en 1959 par l'Allemagne avec le Pakistan. Donc ça a été créé en fait dans après-guerre, à une époque qui était marquée par la décolonisation, par la crainte d'expropriation des anciennes puissances coloniales dans leurs colonies. Donc c'est quelque chose qui s'est, disons, développé lentement pendant un certain nombre d'années. Et c'est vrai que depuis notamment le début des années 90, il y a eu une accélération de ce mouvement, de signature de traités, et en même temps, et surtout dans les années 2000, une accélération de l'utilisation de ces traités, et donc des cas soulevés, des plaintes soulevées et réglées par ce type de tribunaux d'arbitrage.
Et d'une certaine manière, on peut lire les évolutions de la mondialisation justement à travers cet arbitrage, parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de pays qui viennent du Sud et qui sont concernés par ce dispositif, preuve qu'il pèse de plus en plus dans l'économie mondiale.
C'est vrai, évidemment, cette évolution, elle s'inscrit notamment dans un cadre où les relations économiques internationales se sont énormément intensifiées, bien sûr, et l'investissement international, plus encore que le commerce. En proportion du PIB mondial, le stock d'investissement direct à l'étranger, au début des années 90, valait moins de 10%. Maintenant, il est de l'ordre de 35% du PIB mondial. Donc, presque multiplié par 4 en 25 ans, disons. Donc, c'est évidemment très important. Et l'autre nouveauté, comme vous le soulignez, c'est qu'on avait l'habitude de réfléchir à ce type d'investissement international comme étant les pays riches qui investissent dans les pays pauvres. Et de plus en plus, c'est également, donc ça reste vrai, mais il y a également des investissements du sud vers le nord. La Chine est devenue un gros investisseur international, parmi les plus gros. Il est probable que dans les années qui viennent, les investissements directs à l'étranger sortant de Chine seront plus importants que ceux entrant en Chine. Donc on est obligé finalement de repenser cet ancien système dans un contexte nouveau.
Thomas Clay, l'arbitrage comme modèle alternatif de règlement des conflits vient des États-Unis. Février 1935, le Congrès américain adopte la Federal Arbitration Act, par laquelle la puissance publique va déléguer une partie de ses compétences avec des outils qui permettent d'en garder un certain contrôle, notamment avec des voies de recours possibles. Mais on a là les premières formes, finalement, d'une privatisation de la justice. Donc c'est une forme américaine qui remonte à plus de 90 ans. Est-ce qu'on peut voir, à travers le développement de l'arbitrage, une forme d'américanisation, mais aussi peut-être de privatisation de la justice? Et est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Thomas Clay?
Alors, ça ne se fait pas du tout, mais je vais être obligé de vous démentir.
Allez-y.
Absolument désolé
j'adore
de
ça,
commencer par une dénégation. L'arbitrage, en fait, ne vient pas du tout des États-Unis. Mm-hmm. L'origine de l'arbitrage est très, très ancienne. Elle remonte quasiment à la nuit des temps, à l'histoire de notre civilisation. On en trouve en droit romain, on en trouve même en droit hellénique, en droit athénien, on en trouve même chez les Étrusques, en Arabie pré-islamique,
Sauf que ce sont des arbitrages publics.
Non, ce sont des arbitrages privés. Il y avait à Athènes, comme vous le dites, il y avait des arbitrages publics et des arbitrages privés. On en trouve d'ailleurs trace dans Aristote, par exemple, qui le décrit de manière extrêmement précise. Et en fait, c'est un phénomène plutôt qui vient de ce qu'on appelle la civil law, c'est-à-dire du droit continental européen. C'est pour ça qu'en réalité, il n'est pas en plein développement, l'arbitrage. Il est en évolution continue depuis 4000 ans, si je peux dire ça comme ça. Ça, c'est le premier élément du phénomène. Alors, on le découvre aujourd'hui à travers des affaires malheureuses. Vous avez cité tout à l'heure l'affaire Tapie ou la négociation sur le TAFTA. Mais en réalité, ce que ça révèle, c'est la très grande variété des modèles d'arbitrage. Depuis le début de cette émission, nous parlons d'un certain type d'arbitrage, qui est l'arbitrage d'investissement, c'est-à-dire l'arbitrage entre d'un côté un État et de l'autre côté un investisseur étranger à cet État. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un type d'arbitrage important parce que les enjeux sont importants, mais ce n'est qu'un type d'arbitrage qui, sur le volume des arbitrages possibles, est assez en réalité minoritaire. Vous avez ensuite des arbitrages très spécifiques, type arbitrage sportif, que vous avez évoqué. Et là, effectivement, l'affaire Platini est emblématique. Et puis, vous avez le lot commun des arbitrages, les principaux arbitrages.
Les arbitrages commerciaux.
Les arbitrages commerciaux, qui peuvent être aussi bien en matière internationale, c'est-à-dire entre deux entreprises de nationalités différentes, que en matière interne. Et en matière interne, ça se développe, ça ne se développe pas. C'est dans la législation française depuis 1806.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être, Thomas Clay, à quoi ressemble une procédure classique? Évidemment, il y a beaucoup de cas, mais disons les grands principes de base.
C'est très simple de répondre à cette question. Les grands principes de base sont les principes de la justice. C'est-à-dire que l'arbitre est un juge qui rend une décision de justice au terme d'une procédure qui respecte les garanties fondamentales de bonne justice, notamment ce qu'on appelle le principe du contradictoire, c'est-à-dire que chacun ait pu s'exprimer. Et puis, l'arbitre doit être indépendant et impartial. Et sa décision a la même valeur qu'une décision de justice. Elle ne peut pas être attaquée ou bien être attaquée que par le biais de modes ou de griefs extrêmement réduits. Et elle peut être exéquaturée, c'est-à-dire obtenir l'exécution dans les 160 pays signataires de la Convention de New York de 1958. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une décision rendue par un tribunal arbitral, qui s'appelle une sentence arbitrale, est plus facile à exécuter à l'étranger qu'une décision rendue par un juge étatique.
Vous dites que l'arbitrage s'appuie sur un principe simple, c'est le principe du droit, mais en réalité, il n'y a pas un droit, il y a des droits. Et peut-être que justement, l'un des avantages de l'arbitrage, c'est qu'il permet aux différentes parties de s'accorder sur l'environnement législatif sur lequel ils vont se départager. C'est-à-dire que les lois varient beaucoup, évidemment, d'un pays à l'autre. Ça permet de prendre des références communes, de discuter d'ailleurs aussi dans une même langue. C'est aussi une manière de rapprocher les différentes cultures judiciaires.
Alors, oui et non. Oui, parce que vous avez raison, on va choisir la loi. On va choisir la loi applicable. Mais ça ne diverge pas de la procédure devant le juge étatique. Devant le juge étatique, en matière commerciale, les parties choisissent la loi applicable. Et vous pouvez être devant le juge français et appliquer la loi américaine, ou inversement, être devant le juge américain et appliquer la loi française. Mais oui quand même, parce que il y a, sur la procédure elle-même, il y a quand même une convergence des modèles, il y a une harmonisation des différentes pratiques juridictionnelles, et par conséquent, on va se retrouver mélangé dans une procédure, à la fois une procédure type écrite à la civil law, à la française, et puis une procédure orale avec des plaidoiries importantes, et notamment ce qui est très important dans la procédure américaine et dans la procédure, de manière générale, le common law, qu'on retrouve dans l'arbitrage, c'est la phase de témoignage et d'expertise, qu'aujourd'hui, les juges judiciaires n'offrent plus en matière civile.
Sébastien Jean, il y a une convergence des modèles et en même temps, il existe plusieurs grandes places d'arbitrage. Paris, Genève, Londres, New York, il y a même une véritable compétition en réalité entre ces différentes places. Et visiblement, la France occupe une place importante, voire peut-être la première place en termes d'arbitrage dans le monde. Comment l'expliquer? Est-ce que ça tient à des raisons historiques? On pourrait rappeler par exemple la Chambre de commerce internationale est installée à Paris depuis 1919. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a aussi autre chose, Sébastien Jean?
Il y a effectivement, je pense, principalement un héritage historique, puis ensuite des conventions qui, justement, ont constitué des socles conventionnels sur lesquels ensuite s'est développé un système. Et ce qui est intéressant, c'est que, justement, dans ce débat un peu qui est actuellement autour des évolutions à donner au modèle dominant, il y a cette, tentative de la Commission européenne, des institutions européennes pour dire il faut aller vers un système qui est un socle multilatéral mieux fondé, plus largement accepté et qui donne une base commune à ce socle légal de résolution des différents investissements, parce que pour l'instant on a différentes places d'investissement et on a une multitude de traités sur lesquels on se base. Donc c'est un contexte extrêmement fragmenté sur lequel on doit s'appuyer pour régler ces
Donc l'idée, ce serait d'homogénéiser tout ça. On va en parler tout à l'heure avec Édouard Boursieux. Thomas Clay.
Oui, pour prolonger ce qui vient d'être dit, parce que je veux insister, on ne le sait pas assez, Paris est la capitale mondiale de l'arbitrage. Vous l'avez un peu dit, c'est une place qui est concurrencée, qui est jalousée, mais il y a des raisons historiques qui tiennent effectivement à la présence de la Chambre de commerce internationale à Paris depuis quasiment un siècle. Et la Chambre de commerce internationale à Paris abrite en son sein un centre d'arbitrage, qui s'appelle la Cour internationale d'arbitrage, qui est le principal centre d'arbitrage au monde. Donc, ça fait de Paris, c'est une des raisons, il y en a d'autres. La qualité du droit français est aussi du droit français de l'arbitrage est une des raisons. La qualité des acteurs fait que Paris concentre l'activité, j'allais dire quasiment économique, en matière d'arbitrage, avec tous les spécialistes au monde, les plus grands cabinets américains d'avocats ont leur département d'arbitrage.
Oui, c'est ce qu'on a vu ces dernières années. Ils s'installent au fur et à mesure à Paris, et notamment pour pouvoir profiter de cette force en termes de
savoir-faire. D'arbitrage. Ça veut dire que vous avez tous les métiers induits qui sont là, les sténos, les traducteurs, les coursiers. Et c'est vrai que l'arbitrage fonctionne très bien à Paris. Donc, il faut le dire. Alors, juste pour terminer sur ce point, parce que c'est vrai que c'est un point de vue économique, il y a eu un risque, il y a quelques années, que la Chambre de commerce internationale déménage à l'étranger. Et évidemment, toutes les places européennes ont fait acte de candidature avec des solutions plus offrantes les unes que les autres. Et notamment Vienne, Genève, même Madrid, et Londres, qui est une place aussi importante. Finalement, le gouvernement a fait ce qu'il fallait pour que la Chambre de commerce internationale reste à Paris. Et ça montre qu'il y a aussi un enjeu économique très important de la présence de ce centre à Paris.
Sébastien Jean, on s'interroge beaucoup sur l'indépendance, bien sûr, des tribunaux d'arbitrage. Et pour cause, nous, en France, on a tous en tête cet arbitrage dans l'affaire Tapie, annulée, je le rappelais tout à l'heure, par la Cour d'appel de Paris. Ce sont des dispositifs de règlement des différends qui inspirent assez peu confiance aux opinions. Peut-être que le manque de transparence en est l'une des raisons principales. Est-ce que les opinions ont tort de se méfier de la procédure d'arbitrage ?
Ce que je trouve déjà un peu paradoxal, c'est qu'on a l'air de découvrir, à l'occasion de ces discussions sur les négociations du traité transatlantique, qu'il existe des procédures d'arbitrage, comme ça, internationales, et par ailleurs que les États, lorsqu'ils signent des accords internationaux, s'engagent et donc se lient dans l'exercice de leur souveraineté. Or, précisément, un accord, ça sert à prendre des engagements, à lier les deux parties. Donc, quand un État signe un accord international, il s'engage. Donc, je trouve la teneur de ce débat, de ce point de vue-là, un petit peu étonnante. Et en même temps, il me semble que c'est compréhensible que beaucoup d'interrogations entourent ces projets et ce débat. Pourquoi ? Parce que, justement, on a un système ancien de traité, notamment, moi je me focalise dans mon analyse sur l'investissement international et les règlements afférents. Je l'ai dit, il y a une histoire longue, mais il y a une évolution récente qui leur fait changer de nature. Et du coup, ça oblige à repenser dans un contexte complètement différent un système qui avait été développé de façon asymétrique et qui était finalement des garanties qu'on demandait à des pays en développement pour aller investir chez eux. Donc, c'est un système que les Européens ont largement contribué à développer parce qu'ils en sont finalement les principaux utilisateurs, ils en ont été les précurseurs, mais aussi un système, je crois, qu'il est légitime de réformer. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a des décisions qui sont difficilement acceptable ou en tant que tel dont la légitimité paraît contestable. Alors, on a énormément commenté l'histoire de Philippe Maurice attaquant l'Australie. Bon, je pense excessivement. C'est vrai que sur le principe, c'était assez stupéfiant. Philippe Maurice a été débouté, mais il y a d'autres cas qui me semblent emblématiques des problèmes posés par ce type de procédure. C'est par exemple un investisseur koweïti qui investit 5 millions de dollars en Libye pour créer un complexe touristique qui ensuite est exproprié de son bien et qui obtient en arbitrage 935 millions de dollars de compensation. Et donc, c'est un cas qui est un peu extravagant. Donc, ça ne veut pas dire qu'il soit représentatif de l'ensemble parce que, surtout dans les négociations qu'on fait maintenant, des nouveaux traités, on fait en sorte que la compensation ne puisse pas excéder le montant qui a été investi. Mais je pense que c'est assez illustratif.
Ce qui était le cas dans ce
non,
cas.
Non, dans ce traité-là, justement. Mais c'était dans ce cas-là complètement disproportionné. Donc ça ne veut pas dire que ça soit représentatif de l'ensemble. Ça veut dire qu'en même temps, il y a un besoin de réformer. Et je pense que pour les Européens, il est légitime et il est même nécessaire de penser à la réforme du système existant.
On va y venir dans quelques instants avec Édouard Boursieux qui vient nous retrouver par téléphone. Thomas Clay, sur cette question de la défiance vis-à-vis de ce procédure d'arbitrage. Vous êtes l'un des conseillers juridiques de Michel Platini. Il y a quelques jours, il contestait sa suspension par la FIFA auprès du tribunal arbitral du sport. Il réfute donc sa suspension à la tête du football européen. Il a été entendu pendant plusieurs heures. Ce tribunal arbitral du sport, alors pour rappel, il a été créé en 1981 par le président du CIO de l'époque, qui était Juan Antonio Samaranch. Depuis, il y a eu des centaines de demandes d'arbitrage. Une des dernières en date, c'est celle qui concerne l'affaire de cet athlète russe contre la Fédération russe. Est-ce que ça vous semble être un organisme indépendant, fiable? Est-ce que son histoire et ses récentes décisions le prouvent?
Je vais vous répondre, mais je suis obligé de répondre à ce qui vient d'être dit.
Je vous en prie.
Parce qu'il se trouve que je suis l'un des conseils de l'État koweïtien dans l'affaire que vous venez de citer.
Ah.
Et je ne peux pas laisser passer ce qui vient d'être dit comme quoi la sanction serait disproportionnée, parce qu'il n'y a pas que l'investissement dans cette affaire. Il y a toutes les expectatives, il y a un contrat sur 99 ans. Bon, on ne va pas faire ici le dossier, mais croyez-moi que le Koweït a de bonnes raisons de justifier sa créance. Sur l'arbitrage en matière sportive, c'est un arbitrage de nature très particulière, et vous posez effectivement la question qui fait mal, parce que c'est un arbitrage qui est obligatoire. C'est-à-dire qu'un sportif, s'il veut participer à des compétitions sportives encadrées par sa fédération, il n'a pas le choix que d'accepter par avance.
Alors que d'habitude, justement, les deux parties sont d'accord.
Voilà, l'arbitrage repose sur un principe absolument déterminant, comme c'est une justice qui est dérogatoire à la justice étatique, c'est que on ne va à l'arbitrage que par une adhésion volontaire. Or, en matière sportive, pour tout ce qui relève du tribunal arbitral du sport, on n'a pas le choix. C'est-à-dire soit on accepte la compétence du tribunal arbitral du sport, soit on fait du sport dans son jardin avec ses enfants. Et on oublie les compétitions internationales.
Donc c'est pas un dispositif satisfaisant, de votre point de vue?
En tout cas, en ce qui concerne le consentement, c'est pas du tout un dispositif satisfaisant. Et d'une manière générale, à mon avis, accoler les expressions arbitrage et obligatoire, c'est faire un oxymore.
D'accord, donc il y a un problème. Thomas Clay, les arbitres doivent n'avoir aucun lien avec l'une ou l'autre des parties, ça c'est toujours la règle. N'avoir joué évidemment aucun rôle dans l'affaire, c'est un principe de base aussi. En l'occurrence, Michel Platini a choisi Jan Paulsen, qui est ancien président de la Cour d'arbitrage internationale de Londres. Et le comité de la FIFA a choisi le Suisse Bernard Anotio.
Belge,
d'accord. C'est Bernard Anotio,
oui,
qui est membre du barreau de Bruxelles, vous avez raison. Le président, c'est l'Italien Luigi Fumagalli, professeur de droit international. C'est un trio bien composé, de nature à rendre un jugement équitable.
Alors là, vous me posez une question qui est terrible, parce qu'on attend la décision pour lundi à 11h. Donc c'est pas le moment où je vais dire que je n'ai pas confiance dans le tribunal arbitral. Ce que je peux dire simplement sur ces arbitres-là, c'est qu'effectivement, du côté de Michel Platini, nous avons choisi Jan Paulsen, qui est un des plus grands arbitres au monde, c'est un Suédois absolument irréprochable, que du côté de la FIFA, ils ont choisi Bernard Anotio, qui est belge, qui est aussi un des très très grands arbitres, et que le président que j'ai découvert pour ma part à l'audience m'a semblé tout à fait expérimenté. Alors, on peut regretter que les parties n'aient pas été associées au choix du président. Ça, c'est un problème dans le fonctionnement de l'arbitrage du TAS, c'est que en principe, les parties sont quand même consultées sur le choix du président, qui est celui qui a une voix quand même importante dans le tribunal arbitral. Là, ça n'a pas été le cas, on l'a découvert par un courrier du tribunal arbitral du sport. Mais force est de reconnaître qu'à l'audience, il a semblé absolument compétent et parfaitement connaître son dossier.
Vous êtes confiant, il va retrouver son poste et il va pouvoir ouvrir le premier match de l'Euro au Stade de France le 10 juin prochain?
Non seulement je suis confiant, mais surtout il le mérite. Parce qu'il n'y a rien dans ce dossier qu'on peut sérieusement lui reprocher. Je voudrais quand même dire un mot, c'est que jusqu'à présent, il y a eu toute une série de péripéties procédurales. On dit que Michel Platini a perdu les différentes échéances, mais il les a perdues devant la FIFA, c'est-à-dire devant son adversaire. C'est comme s'il jouait à l'extérieur, en quelque sorte. Son adversaire était la FIFA, et l'organe qui jugeait, c'était la FIFA. Donc effectivement, on a perdu dans ces conditions-là. Et on était obligé de ce qu'on appelle épuiser les voies de recours devant la FIFA, avant de pouvoir saisir un organe indépendant, qu'est le cas du TAS.
Voilà, oui. Il n'est pas tout à fait à l'extérieur, mais ce n'est pas tout à fait un terrain neutre de ce que vous nous dites sur le choix du président, etc.
Ah ben c'est neutre, c'est-à-dire que ce n'est pas la FIFA qui décide, c'est le tribunal arbitral du sport. On n'est pas, si vous voulez, là, face aux organes de la FIFA pour contester la FIFA.
L'arbitrage en procès, c'est notre sujet. Ce matin, on est avec Thomas Clay et Sébastien Jean.
France Culture. Culture Monde par Florian Delorme.
Voilà, alors il y a beaucoup de discussions, d'inquiétudes autour du fameux TTIP. On l'a dit déjà, le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. D'ailleurs, le gouvernement a fait savoir cette semaine qu'il était probablement Oui, qu'il était possible, en tout cas probable, que les discussions s'arrêtent. Le rapport avec l'arbitrage, eh bien, le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et État, qui est l'une des pierres angulaires de l'accord. Au départ, il était question de tribunaux d'arbitrage privés. Mais à l'été dernier, la Commission a fait une contre-proposition.
Nous voulons construire sur les bases d'un système qui existe depuis les années 50 pour protéger l'investissement. L'investissement doit être protégé contre l'expropriation, les nationalisations ou les discriminations. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et ces systèmes existent depuis des années dans le monde entier grâce à différents accords bilatéraux. Mais ils sont un peu vieux. Ils ont besoin d'être modernisés pour gagner en légitimité. C'est pourquoi nous avons entamé une procédure de réforme pour les rendre plus encadré, plus transparent, pour s'assurer qu'il est garanti par la loi, qu'un État peut toujours légiférer pour protéger ses citoyens sans que les entreprises remettent cela en question et pour en faire un système plus proche des cours traditionnels. Et dans le futur, j'espère qu'il s'agira d'un système multilatéral, car il y a besoin d'une réforme globale. Le but, c'est un système global de cours international.
Voilà, un système global de cour internationale, une cour permanente indépendante et souveraine chargée de régler les litiges. Voilà ce que propose Cécilia Malmström, commissaire européenne au commerce. Bonjour Édouard Boursieux.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes représentant de la Commission européenne en France et en Belgique pour ces questions de commerce. Vous avez entendu, alors on va évoquer bien sûr l'hypothèse de cette cour permanente indépendante, mais d'abord je voudrais vous faire réagir à l'actualité. Vous avez entendu les déclarations du président français. À ce stade, la France dit non au TAFTA. Quelques heures plus tôt, on avait le secrétaire d'État au commerce extérieur, Mathias Fekel, qui expliquait que le plus probable aujourd'hui, c'est un arrêt des négociations. Comment est-ce que vous analysez toutes ces déclarations? Est-ce qu'elles ont pour but de créer quelque chose dans la mécanique des négociations? Est-ce qu'il y a un réel désir, finalement, de mettre un terme aux discussions, Édouard Boursieux?
Non, il n'y a certainement pas de désir de mettre un terme aux discussions. C'est une négociation qui est très importante pour l'Europe et aussi pour la France, où la France a beaucoup d'intérêts à défendre. Et je crois que là, sur ce qui s'est passé depuis deux semaines, il faut vraiment distinguer l'écume des choses liées à l'agitation politico-médiatique autour de ça, des positions de fond du gouvernement français et de l'Union européenne, entre lesquels il n'y a pas un millimètre d'écart. Que cette négociation soit pas à un état de conclusion aujourd'hui, c'est une évidence. Que s'il fallait conclure cette négociation aujourd'hui, la France dise non ou l'Union européenne dise non, c'est évident. C'est bien pour ça qu'on négocie.
Enfin, c'est évident, encore... Édouard Boursieux. Très concrètement, la France a donné un mandat à l'Europe pour négocier à sa place. Donc, en réalité, Paris ne peut pas décider seul de suspendre les négociations.
Non, exactement. La France a donné un mandat. La France et les 27 autres États membres de l'Union européenne, à l'unanimité, ont donné un mandat à l'Union, à la Commission pour négocier avec les États-Unis. Mathias Fekel rappelle systématiquement que la Commission fait son job en termes de défense des intérêts européens et de défense des intérêts français, qu'on est en plein dans le mandat aujourd'hui dans les négociations. Le problème, c'est la position américaine, que les Américains aujourd'hui ne délivre pas encore les résultats qu'on attend d'eux sur des intérêts prioritaires comme les marchés publics, les indications géographiques.
Donc ils n'entendent pas les inquiétudes françaises. Ils sont pas prêts à faire des concessions pour le moment.
Je suis sûr qu'ils entendent les inquiétudes françaises. C'est utile de ce point de vue-là que les Français, notamment avant la visite de Barack Obama à la foire de Hanovre la semaine dernière, aient rappelé et martelé l'importance de certains sujets offensif pour la France, l'importance de certaines lignes rouges aussi, sur les choses que l'Union européenne ne cédera pas dans ses négociations. Ça, c'était des messages très importants à faire passer et qui renforcent le négociateur européen de ce point de vue-là. Mais évidemment, c'est une négociation qui est très difficile. Il faut pas se leurrer, qui va demander beaucoup d'investissements. Mais il va falloir être très tenace dans ces négociations, mais il va falloir aussi faire preuve de sang-froid. On sait que ce sont des sujets sensibles du côté américain, que les Américains auront un certain mal à bouger pendant un certain temps. Ils ont l'habitude dans leurs négociations de bouger beaucoup, mais de bouger beaucoup à la fin des négociations. Donc c'est pas le moment d'appuyer sur le frein. C'est le moment au contraire d'être coriace et tenace et de marteler nos intérêts dans cette négociation et de tenir bon.
Vous restez avec nous, Édouard Boursieux. Sébastien Jean, on sait que Barack Obama voudrait bien que l'accord soit trouvé avant qu'il ne quitte la Maison-Blanche. On l'a vu d'ailleurs il y a quelques jours venir en Europe et puis insister pour que ça soit le cas. Dans l'hypothèse où ça ne serait pas le cas, Sébastien Jean, est-ce que ça pourrait vraiment être préjudiciable pour l'Union européenne? Pour le dire autrement, pourquoi est-ce qu'il faudrait se presser?
je crois que du point de vue européen en particulier, il n'y a pas de raison importante de se presser particulièrement. Il faut privilégier la substance de la négociation. Et il me semble qu'il y a un calendrier politique américain qui est assez compressé, disons, notamment parce qu'il y a une hostilité au libre-échange qui est très apparente dans la campagne américaine, et il y a une crainte de l'administration Obama que s'il n'arrive pas à avancer suffisamment cette négociation avant la fin du mandat, elle soit simplement abandonnée par le successeur, ce qui serait mis au débit du bilan politique d'Obama. Au niveau européen, je pense qu'il n'y a pas les mêmes impératifs, et il me semble légitime de dire on ne va pas se précipiter si effectivement on considère que cet accord, que cette négociation est importante sur le fond. L'important, c'est qu'elle soit bien menée, c'est que son résultat soit satisfaisant pour tout le monde, c'est pas qu'elle soit menée dans l'année courante.
Thomas Clay, vous êtes d'accord? C'est pas la peine de se presser.
En même temps, on sait que c'est dans le dernier, c'est quand le calendrier est compressé, comme vous dites, qu'on arrive dans le moment de vérité, dans le money time, si vous me permettez cette métaphore sportive. Les Américains poussent, les Européens n'en veulent pas. On est là sur une question qui dépasse le cadre de l'arbitrage, hein, qui est le fond du traité. L'arbitrage n'apparaît, à tort d'ailleurs, que comme étant le moyen de pouvoir imposer un libéralisme échevelé aux Européens qui n'en veulent pas. L'arbitrage n'a rien à faire là-dedans. L'arbitrage, c'est un juge. Il faut bien le comprendre.
Eh oui, mais il y a différentes formes. Et justement, on va voir, disons, les deux modèles là qui se font face, Édouard Boursieu. Au sein des négociations de TTIP, il y a cette proposition de l'Union européenne de créer cette cour permanente multilatérale. C'est une proposition qui émane de la Commission européenne, donc à la place des tribunaux d'arbitrage qui étaient envisagés au départ. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi il s'agit? Pourquoi cette alternative? Et est-ce que les Américains sont disposés à créer cette cour? Édouard Boursieu.
Bon, de quoi il s'agit? Il s'agit de réformer les processus, comme l'a dit Cecilia Malmström dans la petite interview que vous avez passée au départ. Il s'agit de réformer les processus de protection des investissements qui existent depuis très longtemps dans beaucoup d'accords et qui, de notre point de vue, aujourd'hui n'apporte pas un équilibre suffisant, satisfaisant entre quelque chose qui est entre l'objectif principal qui est la protection des investissements, qui est un objectif extrêmement légitime et extrêmement important, mais aussi quelque chose qui est absolument fondamental, qui est le droit souverain des États à légiférer. On ne doit pas avoir le moindre espace pour que, à travers ce type de dispositif, des entreprises puissent remettre en cause des législations qui sont dans l'intérêt général, qui sont non discriminatoires, qui poursuivent des politiques publiques légitimes, et qui n'ont rien à voir avec les objectifs fondamentaux de la protection des investissements, qui sont fondamentalement de protéger contre l'arbitraire, le déni de justice, des situations extrêmes. Donc il y avait un besoin de réformer ces dispositifs, de rééquilibrer ces dispositifs, pas seulement au niveau européen. On a 1400 accords de ce type-là signés par les 28 États membres de l'Union européenne, mais au niveau mondial. Et donc c'est ce qu'on a fait dans le cadre de ces négociations. Il y a eu un grand débat là-dessus. On a pris le temps d'écouter tout le monde, d'écouter les critiques substantielles, procédurales sur ces dispositifs et de proposer une approche modernisée de cette question avec beaucoup de points substantiels qui sont clarifiés dans le texte qu'on a mis sur la table et un changement sur la méthode de mise en œuvre d'application de ces accords avec la substitution d'une cour publique internationale avec des juges qui sont nommés par les États, au système actuel d'arbitrage qui était très critiqué dans ce cadre-là.
Sébastien Jean, effectivement, aujourd'hui, ce sont les États, ce sont les citoyens qui s'inquiètent, qui ont peur finalement de voir des États démunis face à des investisseurs étrangers. En quoi cette cour proposée par la Commission permettrait justement de mieux les protéger, selon vous, Sébastien Jean?
Il me semble que l'orientation générale que suit la Commission, c'est d'essayer d'inscrire ces procédures de règlement des différents investissements dans un cadre qui soit plus organisé par les États, plus étatisé, plus public, disons. Si possible, même essayer de le rapprocher des modes de règlement des différents entre États, comme c'est le cas à l'Organisation mondiale du commerce sur les questions commerciales, pour essayer de renforcer sa légitimité. Autant dire que c'est une tâche vraiment difficile. Hein. C'est un défi et je crois que pour l'instant, il y a des éléments qui sont avancés autour de la nomination des juges, autour d'une instance, d'une institution qui serait permanente, qui aurait un secrétariat, qui serait, selon la commission, mieux à même de fournir une jurisprudence plus prévisible, hein, plus constante, disons, une cour d'appel notamment. Et donc l'idée, je crois vraiment, de la commission, c'est que en allant vers ce système qui soit à la fois plus permanent et plus public, on va accroître, disons, la légitimité de ce système de règlement qui est mis en cause, disons, par rapport au système actuel.
Thomas Clay.
Oui, si vous voulez, sur cette question de l'arbitrage d'investissement, hein, on est là, on parle que l'arbitrage Absolument. D'investissement entre un État et un investisseur étranger, c'est très compliqué de vous répondre parce qu'il y a une part de fantasme. Notamment le collectif qui s'appelle, je crois, Stop TAFTA, dont j'ai un tract sous les yeux, raconte à peu près n'importe quoi, et on a du mal à combattre des fantasmes avec des statistiques. En gros, l'idée, ce serait que des investisseurs privés vont pouvoir contraindre des États à changer leur législation, et l'exemple qu'on prend, c'est celui, effectivement, de Philip Morris, qui s'est attaqué aux différents États qui ont demandé l'instauration des paquets de cigarettes neutres, c'est-à-dire sans marque. C'est d'ailleurs depuis peu le cas de la France également. Donc ils ont attaqué l'Uruguay, ils ont attaqué l'Australie. Or, à ce jour, ça a été rappelé tout à l'heure, la seule décision dont on dispose, c'est une décision de débouter de Philip Morris par un tribunal arbitral. Et si on regarde les statistiques pour combattre justement ces fantasmes, on a 42% de décisions favorables aux États et 31% de décisions favorables aux entreprises.
Bon, alors si tout ça est des fantasmes, Thomas Clay, pourquoi est-ce que la Commission veut une cour et pas des tribunaux privés ?
Parce que pour l'instant,
les
opinions publiques sont résolument contre ce système d'arbitrage tel qu'il existe. Et le pire, je vais vous dire, c'est que si on ne parvient pas à un accord sur l'arbitrage ou sur le traité lui-même, on va rester sur le dispositif actuel. Et c'est quoi le dispositif actuel ? C'est de l'arbitrage. C'est de l'arbitrage via les traités bilatéraux d'investissement.
C'est des tribunaux privés. Très bien. C'est des tribunaux privés dans ce cas.
Oui,
ce que ne veut pas la Commission.
Donc on est en train d'essayer de créer, ça vient d'être dit par votre interlocuteur, des tribunaux permanents, à l'image d'ailleurs de la Cour internationale de justice ou le système de l'OMC qui s'appelle l'ORD. Mais si on n'arrive pas à cet accord, on va revenir à l'état actuel. Et l'état actuel, ça fonctionne. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. C'est que s'il n'y a pas d'arbitrage, qu'est-ce qu'il y a ? L'investisseur, par exemple français, qu'il ne croit pas qu'il va se retrouver dans le tribunal de grande instance.
Personne ne dit qu'il ne faut pas d'arbitrage. Non, la question est de savoir comment on construit cet arbitrage. Est-ce qu'on fait les tribunaux privés ou est-ce qu'on fait cette fameuse cour que veut la Commission ?
Bien sûr, il y a des modalités à trouver. Mais je voudrais quand même rappeler quelle est l'alternative. S'il n'y a pas d'arbitrage, l'alternative, ce n'est pas le tribunal de grande instance de Paris, c'est la cour du second circuit de Minnesota.
Non, mais s'il n'y a pas d'arbitrage, il n'y aura pas de traité, Thomas Clay.
Non, mais aujourd'hui, je ne parle même pas du traité. Alors, quant aux modalités qui sont proposées dans le traité, et qui émanent de la proposition française, moi je ne vais pas les critiquer. J'ai fait partie de ceux qui ont travaillé auprès du ministre Matthias Fekl pour aller dans ce sens-là. Je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de problèmes à régler, mais je ne suis pas certain que les juges permanents soit la bonne solution, parce que l'arbitrage, et je termine là-dessus, l'arbitrage, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le choix volontaire de recourir à l'arbitrage, mais c'est aussi le choix volontaire du juge qui va statuer, c'est-à-dire l'arbitre.
Alors, les juges permanents ne sont pas la solution, Édouard Boursieu, et puis ensuite je repasserai la parole à Sébastien Jean. Il y a dans ce modèle de cour proposé par la Commission, on aurait 15 juges nommés pour un mandat de 6 à 12 ans, 5 juges américains, 5 juges européens, et puis 5 juges de pays tiers. Réaction, Édouard Boursieu, à ce que vous venez d'entendre?
Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire Thomas Clay.
Alors, dites-moi si les Américains sont disposés à s'accorder sur cette proposition de la Commission.
C'est quelque chose qui est en cours de discussion avec les Américains. On a mis notre proposition sur la table au mois de novembre de l'année dernière. Entre-temps, on est parvenu à intégrer cette proposition à l'accord qu'on a conclu avec le Vietnam, qui était en cours de conclusion, et de manière beaucoup plus significative et en termes de précédent aussi vis-à-vis des Américains et pour nos ambitions plus larges au niveau mondial, le Canada, avec qui on avait déjà conclu nos négociations pour un accord de libre-échange et avec lequel on voulait pas réouvrir les négociations, a néanmoins accepté, après la conclusion des négociations, de reprendre intégralement à son compte la proposition européenne. Donc on a maintenant... dans l'accord qui va passer en phase de ratification.
Oui, à la faveur de l'arrivée, pardon de vous couper, à la faveur de l'arrivée du nouveau gouvernement de Justin Trudeau. Hein.
Exactement, exactement. Les choses ont beaucoup bougé avec le Canada depuis l'arrivée de Justin Trudeau, qui s'est montré beaucoup plus favorable à cette approche et à la modernisation des règles sur la protection des investissements. Et donc on a obtenu du Canada de pouvoir intégrer ça à l'accord qui va donc être ratifié bientôt. Et c'est quelque chose d'extrêmement significatif qui montre notre crédibilité sur le sujet et notre capacité à porter cette proposition au-delà des négociations avec les États-Unis dans un cadre plus large avec tous nos autres partenaires et de promouvoir cette nouvelle approche à l'échelle mondiale.
Et pour compléter un tout petit peu cette proposition, je rappellerai aussi qu'il y a une exception qui est exigée par l'Union européenne, qu'on avait déjà vu d'ailleurs dans le fameux accord entre l'Union européenne et le Canada, c'est la restructuration des dettes publiques qui ne pourrait pas être contestée en arbitrage. Sébastien Jean.
Oui, moi, sur le fond, je pense que cette discussion pour essayer d'améliorer les aspects procéduraux de l'arbitrage et va dans le bon sens également, qu'elle est susceptible d'améliorer les choses. Mais pour moi, le fond du problème, c'est quand même les craintes sur les menaces qui peuvent être véhiculées par certaines plaintes, disons, sur le droit à réguler des États. Et je crois que ça, c'est le fond du problème. Et au fond, ces craintes, elles sont liées aux craintes d'abus que peuvent faire les investisseurs de la garantie qui leur est donnée d'un traitement juste et équitable par les États dont la définition est très difficile. Donc, une partie des tentatives de la Commission consiste à restreindre de façon beaucoup plus limitative ce qui peut être attendu au terme de ce traitement juste et équitable. Pour moi, si on va vraiment au fond au bout de cette logique, disons, il me semble que dans ce nouveau contexte où on peut plus simplement réfléchir à ces traités d'investissement comme une garantie qu'on demande à un pays en développement dans lequel on va investir, mais si on y réfléchit comme quelque chose de symétrique, c'est-à-dire en demandant seulement des concessions à nos partenaires qu'on serait prêt à leur octroyer nous-mêmes, il faut réfléchir de façon beaucoup plus ciblée sur le concept de non-discrimination qui est vraiment le fondement des accords économiques internationaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire je garantis à mes partenaires que je vais traiter les entreprises étrangères sur mon sol aussi bien que je traite mes entreprises nationales.
Ce principe de non-discrimination, justement, si on le pousse jusqu'au bout, si on pousse un peu la logique, parce que pour le moment, on a des accords bilatéraux avec des cours bilatérales, Union européenne-Canada, Vietnam-Union européenne, pourquoi pas demain États-Unis-Union européenne. Est-ce qu'on pourrait imaginer une grande cour internationale qui puisse régler justement tous ces litiges, quels que soient les pays ?
Thomas Clay. C'était au début, c'est le CIRDI, le centre de Washington, qui déjà règle tout ça sur la base de la convention de 1965 que vous avez citée au début. Là, il s'agit, si vous voulez, de dispositifs dérogatoires à ce dispositif multilatéral mondial qui existe déjà à Washington. Donc on essaie de trouver des mécanismes alternatifs comme ceux que vous citez, Canada, Union européenne ou Union européenne, Corée du Sud, etc. Mais
sauf que si je ne m'abuse, Thomas Clay, précisément ce CIRDI, qui a été créé effectivement en mars 1965, tout le monde ne reconnaît pas la légitimité à cette instance, non ? Je ne me trompe pas.
Il est quand même, c'est une convention internationale qui est multi-ratifiée. Alors, ce qui est
comme
vrai,
comme on sait, oui, beaucoup de conventions internationales sont effectivement signées, parfois ratifiées, pas toujours, mais on sait aussi, enfin, regardez la Cour internationale de justice, beaucoup ne reconnaissent pas sa légitimité. Alors, la Cour pénale internationale, pareil. Enfin,
il faut être peut-être un tout petit peu plus précis, parce que on n'a pas le choix, quand on a signé la convention CIRDI, un État n'a pas le choix de ne pas aller à l'arbitrage lorsqu'il est attaqué sur la base...
Combien de pays l'ont signé ?
Je crois qu'il y a une cinquantaine de pays aujourd'hui.
Ça fait pas beaucoup, hein ?
Oui, mais il y a tous les pays importants. Mais en revanche, là où vous avez raison, c'est que certains pays l'ont dénoncé. Il y a trois pays d'Amérique latine qui ont dénoncé, qui ont demandé à sortir système CIRDI. Ce qui montre bien qu'il y a des imperfections. Moi, je ne suis pas un thuriféraire de l'arbitrage qui dit que tout va bien, ou un béni oui-oui qui dit que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et je pense que dans la proposition française qui a été faite à la Commission européenne, disons la Commission européenne inspirée par la proposition française, il y a des choses qui sont excellentes, ce que vous venez de dire sur le principe de discrimination, sur le principe de réparation juste et équitable, sur le fait qu'on peut quand même difficilement être à la fois arbitre et avocat dans les mêmes procédures. Ça, ce sont des choses qui vont dans le bon sens. Il faut absolument clarifier tout cela.
Bon, alors Sébastien Jean, on n'a pas besoin de cette grande cour internationale, puisque de toute façon, elle existe déjà.
Disons, il y a des référentiels et tout l'objet, je crois, tout le but de la Commission, au travers de cette initiative, c'est d'essayer de faire évoluer ce système vers quelque chose qui soit dans un ancrage institutionnel, disons, plus organisé plus directement par les États. Et puis, effectivement, vraiment changer de système de règles pour essayer de modifier à la fois donc les procédures pour éviter les abus, hein, on l'a dit, ou par exemple ce qu'on appelle les treaty shopping, donc le fait que un investisseur, disons, joue un peu avec les règles pour essayer d'aller utiliser le traité qui lui est le plus avantageux, éventuellement en créant une filiale dans le pays dont il veut utiliser un traité bilatéral d'investissement, le fait de mettre en concurrence des juridictions différentes, c'est-à-dire d'essayer à la fois de se plaindre devant une juridiction nationale et puis devant une juridiction liée à un traité bilatéral. Bon, tout ça, effectivement, c'est des questions qu'il faut essayer de circonscrire, des abus potentiels qu'il faut essayer de circonscrire.
Tout dernier mot, Édouard Boursieux, le mot de la fin.
Moi, je crois qu'il y a vraiment une grande opportunité pour réformer et moderniser ce système au niveau mondial aujourd'hui. Comme l'a dit Thomas Clay, il y a des pays en développement qui sont insatisfaits avec le système tel qu'il existait jusqu'ici. Le Brésil n'a jamais voulu signer d'accords bilatéraux sur l'investissement. L'Afrique du Sud a commencé à dénoncer les siens. Il y avait un problème d'asymétrie dans ces accords, sur lequel pointé depuis longtemps par la CNUSED, par exemple. Aux États-Unis, il y a aussi un débat sur, comme il y a un débat en Europe, sur les dispositifs qui existaient jusqu'ici. Hillary Clinton, par exemple, a été très critique sur le dispositif qui a été inclus dans le partenariat transpacifique. Elle serait probablement beaucoup plus intéressée par la proposition européenne dans les négociations transatlantiques si elle devenait la prochaine présidente des États-Unis. Donc là, on a vraiment, on est à un moment de l'histoire où on a vraiment une opportunité d'aller de l'avant, de mettre sur la table une proposition qui modernise ces dispositifs, qui rééquilibre tout ça, qui donne pleinement satisfaction à tout le monde, qui aille vers des règles multilatérales sur le sujet. On a l'intention à l'avenir de discuter de ça dans le cadre de l'OMC également. Et comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, d'aller vers l'établissement d'une cour multilatérale sur l'investissement. Et il peut vraiment y avoir une convergence de vues.
Donc il faut suivre évidemment ces affaires-là de très près. Ce que l'on va faire, bien sûr. Merci beaucoup Édouard Boursieux d'avoir été avec nous ce matin. Alors l'arbitrage apparaît aujourd'hui comme une procédure généralisée. On l'a vu, on l'a entendu ce matin. De plus en plus adapté finalement aux incertitudes du monde. On va retrouver un nouvel intervenant. Puis plus de 20 ans, l'avocat franco-iranien Ardavan Amir Aslani conseille un certain nombre d'États du Moyen-Orient pour des litiges commerciaux pour la plupart du temps. Ces dernières années, le recours à l'arbitrage est également en augmentation dans cette zone. Aujourd'hui, c'est à peu près la moitié des affaires qu'il plaide qui sont traitées par cette procédure. Et dans ce genre de cas, les États ne sont pas automatiquement perdants. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Thomas Clay. En 2014, il a par exemple fait condamner Total à payer plus de 50 millions d'euros pour une pollution dans le port de Djibouti. Autre cas significatif, Ardavan Amir Aslani, qui défend aussi régulièrement la République d'Irak, a dû la défendre face à un consortium de sociétés danoises, pas des sociétés pétrolières, mais un spécialiste des grandes expositions mondiales. Tout a commencé en 2006, il était question d'organiser une grande tournée mondiale, notamment du côté des États-Unis, du trésor antique de Nimrod, situé au nord de l'Irak, en bordure du Kurdistan. Finalement, l'Irak a renoncé à prêter le trésor et la tournée a été annulée. L'exposant danois a poursuivi l'État irakien et celui-ci a fini par gagner en 2013. On va le retrouver au micro de Xavier Martinet.
L'Irak, pour des considérations politiques que l'on peut imaginer et des considérations sécuritaires locales, n'a pas pu, si vous l'autorisez, la sortie de son territoire de ces objets, ce qui a donné lieu à un contentieux. Le consortium demandant des centaines de millions de dollars de dommages et intérêts, à l'intérieur du contrat qui liait ces sociétés-là à l'Irak, il y avait une clause compromissoire qui donnait une attribution de compétences exclusive à la Chambre de commerce internationale de Paris. Donc il y a une procédure qui a été engagée d'après les règles de cette Chambre. Et effectivement, une sentence a été rendue qui effectivement a condamné ces sociétés-là pour leur demande qui paraissait excessive.
Et là, à l'époque, beaucoup d'articles en 2006 parlaient de cette exposition des trésors Absolument. De Nimrod, voilà, qui devait s'organiser aux États-Unis dans un certain nombre d'institutions. Il y avait une première exposition qui avait été annulée. Et là, c'est entre 2006 et 2007 que finalement le contrat n'a pas pu se conclure.
Exactement, le contrat n'a pas pu se conclure à cause de la guerre civile prépondérante en Irak, ce qui n'a pas empêché ce consortium danois d'exiger le paiement de son manque à gagner. Et finalement, le tribunal arbitral a décidé que, ma foi, la force majeure rendait impossible l'exécution de son engagement de faire par l'Irak, et ça a déchargé totalement l'Irak de toute condamnation.
C'est ça, force majeure, parce qu'on était en 2007, une des années les plus chaudes, on pourrait dire, du point de vue des attentats, des heurts, des troubles. La guerre guerre civile, comme vous disiez. Et c'est un jugement qui a été rendu longtemps après. Ça vous a semblé difficile à plaider?
Si vous voulez, toute la procédure a pris 2 ans et demi. C'était quand même assez compliqué. Et si vous voulez, c'est un mécanisme qui est quand même dangereux dans l'optique de cette mondialisation, parce que les grands groupes internationaux sont parfaitement outillés intellectuellement, financièrement, pour mener un combat judiciaire de longue haleine à travers des discussions avec des arbitres, ce qui n'est pas forcément le cas des pays émergents, en particulier des pays qui sont empêtrés dans des conflits internes conséquents, comme ce fut le cas de l'Irak. Mmh. Donc ça peut ne pas représenter, si vous voulez, des garanties d'équité en termes d'accès, si vous voulez, à la technicité qu'on pourrait espérer. Donc la plupart, si vous voulez, des gros co-contractants internationaux préfèrent aller devant un tribunal arbitral en se disant qu'au moins on aura des professionnels de qualité devant nous, au moins il y a un espoir d'indépendance, et puis surtout on aura une sentence arbitrale qu'on aura une chance d'exécuter à l'étranger. D'ailleurs, ce qui leur permet également à l'avance de choisir la loi applicable. Et on ne choisit pas en général la loi des pays arabes du Moyen-Orient. On a tendance à choisir une loi internationale comme la loi française, la loi anglaise, voire la loi helvétique.
Une loi plus neutre ou plus efficace, disons. Et puis dernière question concernant l'Irak et les biens culturels également. Le Louvre a l'intention apparemment de réorganiser une nouvelle exposition au sujet de la Mésopotamie, de éventuellement demander des prêts au musée de Bagdad, peut-être le musée de Mossoul. Jean-Luc Martinez, président du Louvre, disait qu'il l'espérait, il en rêvait. Est-ce que vous en avez entendu de parler? Est-ce qu'il y a de bonnes chances? Et est-ce qu'on va retomber dans ces histoires de clauses compromissoires, d'arbitrage également?
Je pense qu'un contrat d'État entre la France, si vous voulez, et l'Irak a des chances de pouvoir aboutir. Le problème de fond de l'Irak aujourd'hui, en termes des antiquités irakiennes, c'est que le trafic, si vous voulez, des antiquités de l'Irak et de la Syrie à l'échelle internationale, par des mouvements comme le mouvement de l'État islamique, font que l'Irak est très hésitant, si vous voulez, à encourager le marché des antiquités et à faire en sorte à ce que les antiquités irakiennes trouvent, aux yeux du public, une valeur vénale réelle. Donc ça peut être l'élément qui va retarder la chose. Mais à part ça, entre le Louvre et l'Irak, je ne pense pas qu'il y aurait un problème.
Ardavan Amir Aslani au micro de Xavier Martinet. J'indique d'ailleurs qu'il est l'auteur également de L'âge d'or de la diplomatie algérienne qui est paru l'année dernière aux éditions du Moment. Merci beaucoup messieurs Thomas Clay et Sébastien Jean de nous avoir éclairés aujourd'hui sur cette délicate question de l'arbitrage, très technique mais qui me semble plus claire maintenant. Merci infiniment. Et d'ailleurs si on veut qu'elle soit plus claire encore, on peut lire par exemple Thomas Clay les modes alternatifs de règlement des conflits qui vient de paraître chez Dalloz, que vous avez coécrit avec Loïc Cadier. Merci infiniment à tous les deux.